RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Fabrice, bonsoir.
Christophe, bonsoir.
Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est votre jour de science.
Idem.
Cette semaine, on va s'intéresser à un sujet incontournable de nos existences, la mort. Léonard de Vinci disait d'elle que comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Mais est-ce si simple de la voir avec autant de recul ? On en parle aujourd'hui aux côtés de notre invité. Il s'agit de Joseph Agosti, il est psychanalyste et auteur, ayant dernièrement publié « Manuel pour en finir avec la mort » aux éditions en volume.
Eh oui Christophe, les sciences humaines sont aussi les invités régulières de notre émission et le thème de la mort, évidemment, est inévitable là. Bien, une mort qui se vit toujours de manière singulière, qui mène au cimetière comme à la création, à la souffrance invivable comme à la renaissance. C'est ce que précise notre invité dans son dernier ouvrage. La mort qui est aussi ce vêtement que tout le monde portera un jour, ce seul examen final que tout le monde réussira, qui angoisse ou que l'on envisage avec sagesse. Alors, qu'en dit la psychanalyse ? Comment s'y confronter autrement ? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui, vous l'avez précisé, Joseph Agostini, psychanalyste installé à Paris, mais bastiais d'origine, diplômé de psychologie clinique à l'université Denis Diderot, c'est à Paris, également auteur. Je pense par exemple à Manuel d'un psy décomplexé, de Dalida sur un divan, également auteur de théâtre. On le retrouve tout de suite au bout du fil.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Joseph Agostini.
Bonsoir
Joseph.
Merci d'être avec nous dans C'est votre jour de science. Alors, que dit la psychanalyse de la mort ?
Ah !
Ça commence fort, Joseph.
Oui, mais vaste question. Mais que dit la psychanalyse ? Sigmund Freud disait de la mort que c'était l'angoisse ultime, mais aussi la vexation ultime pour l'être humain. Parce qu'il disait quelque chose que je trouve très juste. Il disait que d'abord, l'être humain était déçu parce que la Terre, effectivement, n'était pas au centre de l'univers. Ensuite, parce que l'homme descendait du singe. Et puis ensuite, parce qu'il allait mourir. Et en plus, qu'il allait même pas décider du jour et de l'heure. Et ça, c'est vrai que c'est très vexant pour chacun d'entre nous. C'est une blessure intime que nous devons nous coltiner toute notre vie.
Et quand on vous lit, Joseph Agostini, notamment dans l'introduction de cet ouvrage consacré à la mort, aux éditions en volume, vous dites notamment que déjà, lorsque les spermatozoïdes sont en compétition, ben, on est imprégné de mort parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne.
Et oui, absolument. Dès le départ, c'est vrai que nous allons mourir et il y a une sorte de déterminisme, d'horloge biologique qui se met déjà en route à partir du moment, au moment de l'ovulation. Et ça dure ensuite puisque les cellules meurent au fur et à mesure. Elles se régénèrent, c'est vrai, mais elles meurent quand même. Et puis à un moment donné, la régénérescence ne s'opère plus et il y a comme ça une sorte de finitude que nous éprouvons tous, je crois, seconde après seconde, parce que nous allons tous effectivement vers cette finitude.
C'est sûr, même nous, même Christophe et moi, même vous, ouais.
Ah, vous, c'est sûr, moi, je suis pas sûr encore.
Et pourquoi vous, non?
Ah, ben non, mais
je veux un secret.
Justement, parce que le moi, M-O-I,
et oui.
Et voilà, et a du mal avec la mort. C'est vrai que pour les autres, ça nous semble un peu évident quand même de mourir. Bon, il faut tous mourir un jour. Mais quand on parle de nous, quand on parle de ce petit soi comme ça, cet ego qu'on se trimballe toute notre vie, eh bien c'est difficile quand même de se dire que lui aussi va décéder.
Alors est-ce que la mort, et ça nous intéresserait si vous nous répondez oui avec Christophe et puis sans doute pour les auditeurs, est-ce que la mort s'apprivoise ?
Je crois qu'elle s'apprivoise, parce qu'à partir du moment où on vit dans des sociétés qui refoulent beaucoup la mort, c'est vrai que la mort n'est plus vraiment au centre. Avant, on en sait quelque chose en Corse, l'église, tous les entours religieux, familiaux, c'est vrai que ça donne quand même, ça met un peu la mort au centre de nos vies. On vit avec des rituels, on vit avec un sentiment comme ça que la mort rôde. Dans nos sociétés post-industrielles et urbanisées, c'est vrai que la mort, on n'en entend plus trop parler. Les cimetières, bah, ils sont souvent périphérie des villes. L'église, bah, elle est plus trop là. La question de la mort dans les familles, vous voyez que de temps en temps, à certains enterrements, il y a trois personnes qui viennent rendre hommage et puis on n'est plus comme avant dans cette sorte de rite aussi très villageois comme ça où toute la famille de l'endeuillé se retrouvait comme ça enveloppée par toute cette attention comme ça que lui donnait l'autre. Eh bien la mort est oubliée en quelque sorte, est la grande oubliée de nos sociétés. Et justement quand elle est oubliée, on peut beaucoup moins l'amadouer. L'apprivoiser, c'est y penser, c'est la questionner tout au long de notre vie, c'est ne pas en avoir peur.
Alors justement, avoir peur de la mort, Joseph Agoussi, est-ce que c'est une question de culture?
Oui, je crois une question de culture, une question de culture collective, bien sûr, de là où on est, la place à laquelle on a été assigné au départ. Évidemment, hein, si on est dans une tribu qui met la mort au centre et qui va ouvrir le champagne, qui va être la mort comme une ivresse, la mort comme une fête, on va pas l'envisager de la même manière que si on est dans quelque chose où la mort est une affliction et où on nous enseigne justement que, on va aller en enfer le jour où on rendra l'âme. Donc il y a bien effectivement un déterminisme culturel, mais pas que. Il y a aussi tout un parcours individuel. Hein. Une personne, par exemple, qui est très angoissée par la mort, mais qui la met sous le mouchoir parce qu'elle veut pas en entendre parler toute sa vie, quand elle va avoir affaire à la mort dans le réel, quand elle va devoir perdre quelqu'un ou devoir être elle-même confrontée à un accident ou à une maladie, eh bien l'angoisse sera beaucoup plus importante que la personne qui aura pris le temps de lire, de s'intéresser philosophiquement, artistiquement à ces choses-là, en quelque sorte de la penser avant qu'elle n'arrive.
Ça, c'est intéressant, Joseph Agostini. C'est vrai que c'est un des cœurs de votre ouvrage. Se dire qu'il ne faut pas la mettre sous le mouchoir, hein, vous avez précisé ces mots-là. Ça veut dire qu'il faut en parler autour de nous. On a eu l'occasion ensemble de vivre votre conférence. Vous la donniez, moi je vous écoutais il y a peu de temps à Galéa. Et des gens disaient, j'ai mis par exemple sur un papier mes dernières volontés, mais je n'ose pas les montrer à ma famille. Pour autant, voilà, il faut briser ce tabou.
Je crois que la mort... Bon, ce sont des tabous fondamentaux. C'est la mort et le sexe. On ne parle que de ça. En tout cas, on ne pense qu'à ça. Ah, je suis psychanalyste. Vous allez dire, c'est une déformation professionnelle. Mais je pense que ce n'est pas que ça. C'est vrai que bon, la mort et le sexe sont des tabous ancestraux, hein, de toutes ces sociétés immémoriales. Il y a toujours ces questions-là qui reviennent parce qu'elles font partie. C'est constitutif de tous nos fantasmes. Hein, on a peur, effectivement. On a envie. On s'y intéresse. Mais dans le même temps, bon voilà, ça pose problème parce que c'est de corps dont on parle. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la mort est une... Il ne faut pas en avoir peur, mais ne pas en avoir peur, c'est en parler, c'est traverser le fantasme en quelque sorte, voilà. C'est faire une psychanalyse, c'est s'y intéresser, c'est lire, écrire autour de ça. Ça permet de dédiaboliser, d'exorciser en quelque sorte cette chose-là.
Mais à partir de quel âge, par contre? Parce qu'il y a cette question de parler de la mort aux enfants, par exemple.
Alors, c'est vrai que l'enfant, il faut le laisser enfant. Un enfant, évidemment, il y a toute une initiation à la vie qui passe par plusieurs temps, plusieurs stades. On peut pas, on n'est pas adulte, hein, on le devient. Donc à partir de ce moment-là, il faut laisser aussi le temps à l'enfant de comprendre. Mais refouler, par exemple, il y a certaines familles où on montre pas, par exemple, quand la personne est morte, on dit elle est montée au ciel. Tout de suite, on récupère en quelque sorte avec le religieux et on gomme en fait le réel de la mort. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait bien dans la mesure où l'enfant comprend quand même qu'il y a quelque chose de mystérieux qui lui échappe. Et comprend que les adultes, qu'ils le veuillent ou non, la croyance c'est très bien, on peut évidemment croire et tout à fait souhaitable à certains moments de la vie, mais ce n'est qu'une croyance. Et il faut pas l'affirmer comme une certitude à l'enfant, parce que la certitude n'existe pas, on ne sait pas ce qui advient après la mort. On peut y croire de toutes ses forces, et ça l'enfant, on ne lui fait pas de mal en lui disant qu'on y croit, mais lui dire que c'est une certitude... assainir tout ça en lui disant il n'y a pas de mystère, c'est lui faire beaucoup de mal. Parce qu'il y a un mystère pour tout le monde. Je crois que tout le monde est à la même enseigne et que l'enfant le sait. Et que l'enfant demande que l'adulte soit authentique.
On parle de la mort cette semaine dans C'est votre jour de science sur RCFM. Notre invité, le psychanalyste et auteur Joseph Agostini.
France Bleu, RCFM.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Et il a dit: la vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens. Mais moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. Espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'argent, comme la vie c'est détergent et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit: ah, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis.
La vie ne vaut rien, Alain Souchon.
C'est votre jour de science, l'expert.
On vous prend un petit peu à contre-pied, Joseph Agostini, avec cette chanson. Hein.
Eh, mais c'est vrai que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est André Malraux, je crois, qui avait dit ça. Hein.
Vous êtes psychanalyste et auteur, et on parle avec vous dans C'est votre jour de science cette semaine de la mort. Alors, on se pose une question avec Fabrice. Est-ce que c'est grave, docteur, de mourir?
C'est très grave.
Pour les autres, encore une fois.
Ah oui, ah ben pour l'instant, moi, je suis pas mort. Enfin, je m'en souviens plus, en tout cas. Mais c'est vrai que, oui, ben, de toute manière, la mort, on peut pas y couper. À un moment donné, effectivement, c'est grave, c'est ravageant, c'est destructeur. Je crois qu'on peut pas banaliser la mort. Et ce livre, c'est vrai que ça s'appelle « Manuel pour en finir avec la mort ». Et ça parle de solutions justement pour se confronter à la mort et faire face à elle et la vivre mieux. Mais dans le même temps, c'est pas un livre naïf qui consiste à se sauver de la mort. La mort, effectivement, quand on s'y confronte, à un moment donné, il y a toujours cette période comme ça de deuil, hein, où on est en quelque sorte neutralisé un peu par cette réalité-là et on a besoin de temps aussi pour se réparer.
Et justement, Joseph Agostini, est-ce qu'il y a, vous avez prononcé le nom de deuil, est-ce qu'il y a une boîte à outils pour s'en remettre ?
Mais, alors déjà, il y en a plusieurs de deuil, hein, évidemment. Et je crois que c'est à proportion, on aime la personne à proportion qu'on a déposé en elle des ce que j'appelle des sédiments narcissiques, parce que c'est quand même très narcissique d'aimer sa femme, son mari, son chat. C'est à partir du moment où d'abord, vous voyez, d'ailleurs j'ai utilisé le possessif, à partir du moment où, où c'est le nôtre, hein, en quelque sorte. Donc, ça veut dire quand même, c'est à partir du moment où on dit, on utilise le possessif, que ça nous appartient. Hein, et que donc, c'est parce que ça nous appartient qu'on a de la peine. Hein, et c'est parce que c'est un bout de nous-mêmes qui s'en va qu'on a de la peine. On s'en rend compte quand, eh bien, il y a des accidents de l'autre côté du monde et quand il y a des milliers de victimes. Ça nous fait parfois pas grand chose. En revanche, quand il y a une dizaine de personnes qui meurent juste à côté de chez nous, alors là, c'est le drame du siècle. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on s'identifie complètement à la personne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de narcissisme, finalement, dans ces déchirures-là. On parle beaucoup de soi quand on parle de l'autre au moment où il meurt. Je crois que la mort rassemble les gens qui se sont aimés, donc les gens qui se sont identifiés les uns aux autres. Hein. Je crois que ce sont des communautés d'identification. Je crois que c'est pour ça qu'on a tant de peine parfois quand quelqu'un s'en va. C'est parce qu'il y a cette sorte de croyance aussi que ben, parce qu'on l'aimait, en quelque sorte, il était immortel au même titre que nous, hein, au même titre que notre petit moi, notre petit égo. Et c'est ça aussi qu'on pleure, je crois, dans le deuil. C'est le fait que, eh bien, on est vulnérable et que on n'y croit pas nos yeux et nos oreilles quand ça nous arrive à nous, hein, parce que ça n'arrive qu'aux autres.
Et vous parliez justement, hein, vous disiez, on pleure dans le deuil. Il y a malgré tout ces cinq étapes, la psychanalyse les accepte, ce déni qui suivit de colère, de négociation, de dépression et d'acceptation, le déni au départ, toujours?
Non, pas toujours. C'est vrai que le déni, quand même, il survient. Le déni, le clivage, ce sont des mécanismes de défense qu'en psychologie clinique, on appelle massif. Hein, parce que, bah, en quelque sorte, la personnalité se coupe en deux là, dans le clivage, dans le déni. Hein. Il y a une part qui veut y croire et une part qui y croit pas. Donc, ça fait de nous, quand on vit le déni et le clivage, on n'est pas au top de sa forme parce qu'il y a comme ça quelque chose qui nous déconstruit. Heureusement, tous les deuils sont pas aussi ravageant. Parfois, le deuil, c'est juste un chagrin, c'est juste une tristesse. Il y a comme ça, l'autre s'en va, et puis on se dit qu'on ne le reverra plus jamais, mais ça ne nous atteint pas. Mais malgré tout, on est endeuillé. Enfin, le processus de deuil, c'est pas seulement le déni et le clivage. Mais il peut y avoir des deuils traumatiques, il peut y avoir des deuils effectivement beaucoup plus catastrophiques, où là, la personnalité vraiment est amputée d'une partie d'elle-même. Et pour se protéger, parce que bon, au moment où ça arrive, on peut pas l'admettre, quoi. Le moi n'arrive pas à encaisser, donc il va se couper en deux. C'est la solution du moi quand il est catastrophé, c'est qu'il se dit, inconsciemment, hein, bien sûr, bon, ok, ça m'est arrivé, mais je vais faire comme si quelque part. Voilà, je me donne un petit peu un sursis. Voilà, avant de tout admettre.
Et quelque chose de compliqué aussi à admettre, Joseph Agostini, et merci pour la clarté de vos propos, déjà, c'est le suicide. Que dit la psychanalyse de cela?
Alors, le suicide, d'abord, il y en a plusieurs encore.
Eh oui, eh oui.
Voilà, il y a le suicide qui est un appel au secours, ce qu'on appelle le suicide hystérique. Hein, c'est-à-dire, parfois, quand on est au fond du trou, bah, on a envie de se suicider, on a envie de... Finalement, on prend des somnifères, on essaye d'attenter à ses jours, mais on veut pas vraiment mourir. C'est-à-dire que c'est un suicide, plutôt un appel au secours. C'est une sorte de passage à l'acte, appel au secours. Et puis, il y a le suicide mélancolique qui, là, est un vrai suicide radical. C'est-à-dire, on se jette par la fenêtre. Alors là, c'est autre chose. Parce que l'autre, finalement, la personne qui va se suicider, ne se donne aucune chance. Et donc, je crois, la psychanalyse explique vraiment, distingue ces deux suicides parce qu'ils sont tellement différents. On peut, finalement, et ça peut sembler paradoxal, vouloir se suicider sans vouloir mourir. C'est-à-dire que c'est un suicide qui veut faire signe, hein, et il y en a beaucoup. Et parfois, ces suicides-là réussissent. Alors là, c'est catastrophique. Oui.
Il y a ceux, Joseph Agostini, qui ont approché la mort et vu ce qui se passait près.
Oui, alors là, c'est encore... Voilà, là, on change de dimension, effectivement. Ce sont des gens qui... ce qu'on appelle les expérienceurs de mort provisoire et que j'ai interviewé pour ce livre avec Agnès Roubi qui m'a aidé à l'écrire ce livre. Les expérienceurs de mort provisoire, effectivement, ils disent que la mort, en quelque sorte, n'est pas une fin en soi et qu'ils ont entrevu quelque chose. Alors, on est dans le domaine de la croyance, mais aussi on est dans un domaine sensoriel, sensitif, parce que c'est pas seulement croire en un autre monde, c'est le sentiment profond que ces gens ont au moment où voilà, ils sont entre la vie et la mort, d'entrevoir quelque chose. Alors ils le disent, ils le racontent, et parfois il y a des expériences absolument troublantes, parce que la personne va décrire ces choses-là, et va décrire aussi les autres vivants comme on peut les voir après la mort. Et parfois il y a des, voilà, il y a des témoignages qui se recoupent, et la personne, enfin le vivant va confirmer qu'il était en train de faire ou de dire quelque chose. Donc visiblement cet expérienceur de mort provisoire a pu le voir, a pu l'entendre. Ce sont des expériences vraiment ultimes, extrêmes, qui s'écoutent, voilà, qui créent de la fascination. Moi je ne me prononce pas, et puis c'est pas mon rôle de me prononcer en qualité de psy.
Vous croyez pas à l'au-delà en fait?
Pardon?
Vous croyez pas à l'au-delà?
Moi, personnellement, je suis profondément déiste. Je pense qu'il y a quand même une force qui régit l'univers et qui sort, enfin, finalement, qui nous dépasse. Ça, je le crois, personnellement. Maintenant, l'au-delà, c'est quelque chose... Disons que la plupart d'entre nous, on l'a entrevu d'une manière imaginaire. On l'a pas entrevu d'une manière réelle. On peut l'imaginer, l'au-delà, comme on peut imaginer sa propre mort. Mais on l'a jamais véritablement vécu. Et puis, il y a une poignée de gens qui l'ont vécu, après un accident, après une maladie, au moment où voilà, ils se sont vus mourir, eh bien, ils disent avoir expérimenté cet au-delà. Alors là, je pense que c'est vraiment du domaine de l'expérience, et je pense qu'on peut les écouter, mais quelque part, on ne peut pas tout à fait les comprendre si on n'a pas vécu soi-même cette expérience.
Un dernier conseil peut-être, Joseph, à qui aurait, de l'autre côté du poste, là, peur de la mort? Allez, en 30 secondes, que faire si on a définitivement peur de la mort et qu'on vous entend?
Rassurez-nous.
Venir vous voir à Paris, dans votre cabinet?
Moi, je lire crois votre que livre. D'abord, avant tout, si on a peur de la mort, il faut être du côté de la vie, c'est-à-dire être du côté du désir, avoir envie de vivre. Parce que l'imminence de la mort, c'est la meilleure manière de vivre sa vie à fond, de vouloir vivre le plus possible avant que la mort n'arrive. Donc, finalement, avoir peur de la mort, ça peut être extrêmement positif. On a envie de réaliser ses rêves, on a envie de vivre sa vie complètement, d'accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Moi, mon rêve, par exemple, c'était de faire l'émission de Marie Brondini, par exemple. Vous voyez, c'est un de mes rêves les plus chers. Maintenant, j'ai fait la vôtre, donc du coup...
Vous pouvez mourir tranquille, donc c'est ça.
Ah, mais je peux mourir tranquille, tout à fait. Mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a des rêves à accomplir, et quand la mort approche, eh bien, on a envie de vivre profondément. À l'inverse, je crois que la peur de la mort ne doit absolument pas, en aucun cas, nous recroqueviller en nous-mêmes dans une terreur, parce que là, effectivement, on est du côté de la mort, on est du côté de la pulsion, effectivement, négative, mortifère, destructrice, et je crois que là, la peur de la mort peut gâcher l'existence. Donc, il faut aller du côté de la vie, en appréhendant, effectivement, ce moment. Voilà ce que je dirais.
Eh bien, merci beaucoup, Joseph Agostini, de nous avoir parlé de la mort.
Merci.
Vous êtes psychanalyste, auteur. On rappelle votre dernier ouvrage, Manuel pour en finir avec la mort, paru aux éditions en volume. Et on rappelle que vous êtes Bastiais, donc n'hésitez pas à venir faire un tour prochainement dans le studio, qui sait, à Bastia.
Avec plaisir.
Merci, Joseph.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'est votre jour de science, dans l'actu.
Touche, Fabrice est toujours vivant avec moi.
Plus que jamais, en fait. Je trouve qu'on a parlé de vie et pas de mort avec Joseph, non?
Exactement.
Ah, il était en plus d'une clarté incroyable.
L'actualité scientifique insolite, éventuellement?
Ouais, plutôt, en fait, cette fois-ci. Mais a priori, vous auriez la réponse très simplement à ma question, parce que j'avais déjà évoqué dans une dernière chronique, si vous m'avez bien écouté, où trouve-t-on chez l'homme des papilles gustatives?
Oula, c'est où déjà?
Oui, rappelez-vous.
Ah, je sais plus, j'ai un trou.
Ouais, alors sur la langue, évidemment, vous auriez pu me répondre ça sans prendre de risque. Dans l'estomac, le pancréas. Mais en fait, là aussi, où il fait 34 degrés au lieu de 37. Chez nous, les hommes. 3 degrés de moins que dans le reste du corps habituel. Voilà, on a des papilles gustatives dans les testicules, c'est ce qu'il fallait répondre. D'accord. Une partie intime du corps des hommes, donc, également dotée, je le redis, de récepteurs gustatifs, comme ceux que l'on possède en bouche, composés de protéines sensibles au sucré et au glutamate. Mais pourquoi avoir de tels récepteurs ici-bas? Eh bien, la science n'a pas encore totalement tranché et cherche depuis 6 ans maintenant. Les expériences sur des souris semblent montrer que cela a un lien direct avec la fertilité. Cette fonction gustative s'avérerait même vitale pour produire des spermatozoïdes en pleine forme. Si ces récepteurs sont inhibés, en effet, impossible de procréer. Bref, on ne sait pas pourquoi on ressent un goût du côté des testicules, mais c'est le cas. Alors en tout cas, ça ne nous permettra pas forcément de changer nos habitudes à table. On garde nos pantalons et on mange habillé.
J'ai honte. Vous me faites rêver. Tiens, d'ailleurs, on va parler de rêves. On va parler de rêves, Fabrice. On avait consacré d'ailleurs une émission « C'est votre jour de science » sur les rêves récemment. Vous savez qu'il y a de nombreux faits étonnants sur les rêves dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Parmi ces faits, Fabrice, vous ne pouvez pas lire en rêvant ou dire l'heure. Hein, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Vous ne savez pas si vous rêvez ou non. Essayez de lire quelque chose, par exemple, c'est un peu compliqué. La grande majorité des gens sont incapables de lire dans leurs rêves. Donc, il en va de même pour les horloges. Chaque fois que vous regardez une horloge, elle indiquera une heure différente et les aiguilles de l'horloge ne sembleront pas bouger comme le rapportent les rêves lucides. Il y a aussi des inventions inspirées par les rêves. Les rêves sont responsables d'un grand nombre des plus grandes inventions de l'humanité. On voit ces quelques exemples. L'idée de Google, figurez-vous, par Larry Page. La forme spiralée à double hélice de l'ADN de James Watson. La machine à coudre d'Elias Howe. Il y a aussi le tableau périodique de Dimitri Menvelev ou encore le pargalet de Paul Simide. Et autre fait étonnant sur les rêves, et je sais que vous êtes concerné Fabrice, ce sont les rêves sexuels. La tumescence pénienne nocturne est un phénomène très bien documenté. Et en termes simples, cela signifie simplement que vous obtenez une raideur pendant que vous dormez.
En fait,
l'étude indique que les hommes ont jusqu'à 20 érections par rêve. Et sans transition, Fabrice, les animaux rêvent aussi. Regardez un chien ou un chat dormir et vous pouvez voir qu'ils bougent leurs pattes et font des bruits comme s'ils poursuivaient quelque chose, un petit peu comme vous, Fabrice. Alors notez aussi que vous pouvez faire jusqu'à 7 rêves différents par nuit, selon le nombre de cycles que vous avez. Nous ne rêvons que pendant la période de sommeil paradoxal et la personne moyenne rêve une à 2 heures chaque nuit.
Très intéressant. Je vais m'endormir de suite pour faire des choses intéressantes.
C'est votre jour de science. Ça se passe chez nous.
Le printemps est là, il y a beaucoup de monde cette année au Parc Galet. On l'a vu lors de vos premières conférences du dimanche à 15h, Fabrice. Et bien sûr, dimanche c'est demain, et demain il y aura un invité prestigieux comme ce dimanche.
Et demain on est vraiment contents, ça fait longtemps qu'on voulait la voir. On reçoit le spationaute Jean-François Clairvoix, qui est en fait un des 10 Français à être parti dans l'espace. C'est également lui qui a proposé à Thomas Pesquet en sélection d'y aller à son tour. Alors lui, il était monté à l'époque à bord notamment de la navette Discovery. C'est un expert auprès de l'Agence spatiale européenne, hein, toujours Jean-François Clairvoix. Il est expert pour les vols habités. Ça va être absolument passionnant de l'écouter. On va parler de la force de la propulsion des fusées, de ce qu'on ressent quand on voit comme ça la Terre depuis le cosmos, ce qu'il a vécu par 3 fois. Donc dans la peau d'un cosmonaute, d'un astronaute, de quelqu'un qui est allé côtoyer l'espace, c'est ce qu'on écoute demain avec Jean-François Clairvoix. Puis plein de choses pour les enfants en parallèle.
Eh bien très bien, on y sera d'ailleurs demain à partir de 15h. Merci Fabrice.
Merci Christophe.
À la semaine prochaine, bien sûr. Pour C'est votre jour de science. Et en podcast, bien sûr, à volonté, cette émission sur Bleu RCFM. Dormez bien, Fabrice.
Vous aussi. Bonne nuit.